Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibar.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous revoir pour ce deuxième cours de cette série qui va donc être cette année consacrée aux solitons. Et le cours d'aujourd'hui, donc, je l'ai intitulé « Dynamique des solitons brillants et méthode IST ». Et les initiales IST, donc, c'est pour l'anglais « Inverse Scattering Transforms », qu'on peut traduire en français, vous allez voir pourquoi, par « inversion des données de diffusion ». Voilà. Et bon, comme toujours, si vous voulez télécharger soit les diapositives, soit les notes, vous prenez ça en photo et normalement, ça fonctionne. Voilà, donc je vais commencer d'abord en vous rappelant les séminaires qui sont associés à ce cours. Tout à l'heure, on va avoir le plaisir d'écouter Jérôme Dubail de Strasbourg, qui va nous parler de sujets qui sont très en lien avec le cours, qui est l'hydrodynamique émergente dans des gaz de Bose en une dimension. Donc ce sera parfaitement en phase, j'espère. J'espère qu'il ne va pas contredire ce que je vais dire, parce que c'est un spécialiste, donc ce sera en phase avec le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera Jacqueline Bloch. La semaine d'après, Thierry Jamarqui. Et je vous rappelle que l'après-midi du 11 avril, nous aurons un atelier que je co-organise avec Sylvain Lassimben, qui sera autour de la topologie, la matière topologique explorée avec des atomes ou de la lumière. Voilà. Bien. Alors, je vais commencer par résumer très brièvement ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je vous rappelle déjà la plateforme à laquelle on s'intéresse. Hein. Ce sont des condensats de Bose-Einstein, plus généralement, on va dire, des superfluides, dans une géométrie quasi unidimensionnelle. Et pour ces superfluides, on adopte une description en termes de champ moyen, c'est-à-dire par une fonction d'onde, et cette fonction d'onde obéit à une équation d'onde, qui est l'équation qu'on peut appeler de Schrödinger non linéaire ou de Gross-Pitaïsky, je vais vous la rappeler dans un instant. Je vous rappelle que cette équation, on l'écrit avec une hypothèse bien précise sur les interactions entre particules. On suppose que ces interactions sont des interactions de contact, donc du type, si j'ai deux particules, une en x1, une en x2, du type petit g, qui me donne la force des interactions, fois la distribution de Dirac, delta de x1 moins x2. Et petit g peut être positif ou négatif. Dans le cours de la dernière fois et dans le cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser à des interactions attractives, donc g négatif. Et à partir de la semaine prochaine, on regardera ce qui se passe pour une interaction répulsive. Les deux situations sont notablement différentes. Alors, je vous rappelle cette équation de Schrödinger non linéaire, ou équation de Gross-Pitaïevski, qui va donc nous servir aujourd'hui. Donc, équation de Schrödinger non linéaire. Donc, avec des variables dimensionnées, elle s'écrit du type IH bar dψ sur dt. Donc la partie temporelle est égale à une partie liée à l'énergie cinétique, moins h bar carré sur 2m d2ψ sur dx2. Et puis, cette partie liée aux interactions, donc qui fait intervenir le quotient petit g, plus g, module de ψ carré, ψ. Donc l'objet qu'on manipule ici, c'est une fonction à la fois de l'espace petit x et du temps petit t, et cette fonction est normalisée de telle sorte que l'intégrale de psi de x et de t en modulo carré dx, donc intégrale prise sur tout le domaine accessible pour le superfluide, donc disons de moins l'infini à plus l'infini pour simplifier ce stade, c'est égal à grand N, le nombre de particules. Et puis, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a également une version adimensionnée qu'on va retrouver aujourd'hui, qui consiste à prendre des temps en unité commode, l'unité étant liée à h bar, à m et à petit g, même chose pour les positions. Et j'appelle à ce moment-là U la variable, la fonction réduite. Et cette équation s'écrit U dérivée de U par rapport au temps, c'est ce qui remplace le IH bar dψ sur dt. Et j'écris, pour être plus compact, U indice t, ça signifie U dérivée par rapport au temps, plus le terme, donc dérivée seconde par rapport à x, je vais tout passer de droite à gauche ici, plus UXX, plus le terme qui vient donc du terme non linéaire ici, que j'écris en quantité adimensionnée, qui est un 2 fois U carré U égale 0. Voilà. Et à ce stade, la norme de U peut être choisie quelconque, et pour décrire différents types de situations. Voilà. On avait également vu la dernière fois la solution d'énergie fondamentale quand G est négatif, quand les particules s'attirent, qui est le soliton fondamental, puisque donc les particules s'attirent, et je vais pouvoir mettre toutes mes particules les unes à côté des autres, former comme ça un étalier. Donc forme un étalier dont on avait vu ensemble la dernière fois que l'énergie varie comme moins n cube, si je prends l'équation avec les dimensions ici, ou si vous préférez le potentiel chimique, qui est donc l'énergie que je dois payer pour ajouter ou extraire une particule, donc dE sur dN, varie comme moins n carré. Et la forme précise de ce soliton, ben ça, on l'avait vu ensemble, hein, je vous la redonne sans démonstration. Le psi de x et de t correspondant à ce soliton, c'est donc une amplitude psi 0 divisée par un cosinus hyperbolique de x sur 2 fois x0, et puis l'évolution temporelle, simplement une épuissance moins i mu t sur h bar, où mu est donc ce potentiel chimique dE sur dN. Et la valeur de x0, donc c'est ce qui me sert à dimensionner l'équation pour passer de la première à la deuxième, c'était h bar carré sur la masse fois la valeur absolue de g, puisque je rappelle que je prends g négatif, hein, je peux le réécrire ici, g négatif, valeur absolue de g, et puis le nombre de particules grand N. Voilà. Donc ça, c'est la fonction avec les dimensions réelles. Psi 0, vous le trouvez en écrivant que l'intégrale de psi carré doit valoir n. Si je me ramène à l'équation sans dimension pour petit u, là, à ce moment-là, c'est encore plus simple. Le soliton le plus simple, c'est u de x et de t, qui est simplement 1 sur cosinus hyperbolique de x fois et puissance it. Et puis, je peux faire des variantes autour de ça, c'est-à-dire lui mettre une masse... Celui-là, il a une masse de 2. Hein. Je peux mettre une masse différente, donc en prenant kappa sur coche kappa x, et à ce moment-là, le facteur qui vient se mettre ici, c'est i kappa 2 t. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça. Voilà. Quand j'écris avec u, hein, les x et les t, je devrais mettre des x tildes et des t tildes, parce que ce sont les positions et les temps à dimensionner. Je ne vais pas le faire pour alléger les notations. Voilà, donc ça, ça fait partie des choses qu'on avait vues la dernière fois. Et je vous avais également signalé la dernière fois un résultat remarquable qui était cette robustesse des solitons, qui était le fait que quand je préparais deux solitons initialement loin l'un de l'autre et je leur donnais des vitesses différentes, eh bien, à un moment, ils allaient se rencontrer. Et bien, au moment où ils se rencontrent, la fonction d'onde a l'air un peu compliquée, mais ils ressortent complètement indemnes de la solution. C'est-à-dire que leur masse initiale est égale à la masse finale, leur vitesse initiale est égale à la vitesse finale. C'est ce qui est représenté sur ce diagramme où le temps va de haut en bas. Donc là, j'avais pris deux solitons de masse dans un rapport 3 ou 4, je crois, et voilà. Et je rappelle que ça avait été la première signature vraiment forte de ces propriétés étonnantes des solitons dans l'article de Zabuski et Kruskal. Je les cite ici. Hein. « In other words, solitons pass through one another without losing their identity. Les solitons se traversent sans perdre leur identité. » On est en face là, je traduis la deuxième phrase, on est en face là d'un processus non linéaire dans lequel on a des pôles qui sont localisés et qui, malgré tout, malgré le fait que ce soit un processus non linéaire, ces pôles ne diffusent pas, ils gardent leur intégrité. Voilà, alors je vous l'avais présenté sans la moindre explication la dernière fois et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre cette propriété remarquable. Donc, pour commencer, je voudrais en introduction vous montrer une autre manifestation de la robustesse des solitons, qui est le fait que si initialement je ne prépare pas exactement la bonne fonction d'onde, si j'essaie de préparer un 1 sur cosinus hyperbolique de x, mais que je me trompe un petit peu, eh bien au bout du compte, je vais quand même obtenir un soliton, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de purification qui opère, et la robustesse du soliton se manifeste également là-dedans. C'est-à-dire que si on se trompe dans la préparation, ce n'est pas très grave. Au bout du compte, on obtient quand même un soliton d'une masse un petit peu réduite par rapport à ce qu'on visait, mais néanmoins, on obtient un soliton. Donc ça, on a donc plusieurs manifestations comme ça de cette robustesse étonnante, en plus, évidemment, du fait qu'ils quand ils sont tout seuls, ils se propagent sans la moindre perturbation, c'est-à-dire qu'ils gardent leur vitesse et leur taille. Donc pour expliquer toutes ces propriétés étonnantes, eh bien, je vais vous présenter ce qu'on appelle cette méthode IST, Inverse Scattering Transform, inversion des données de diffusion. Et c'est vraiment une méthode mathématiquement superbe. J'ai repris ici une phrase de Michel Perard et Thierry d'Auxois dans leur livre que j'ai déjà cité sur les solitons. Ils disent la chose suivante, cette méthode constitue l'apogée de la théorie des solitons sous son aspect mathématique. Alors peut-être qu'il y aura d'autres apogées plus tard, qui sait, mais c'est vrai que c'est vraiment un outil mathématique assez fantastique pour aborder des problèmes difficiles qui sont des problèmes non linéaires. Et puis ensuite, une fois qu'on aura présenté cette méthode, ça va être le gros morceau d'aujourd'hui, eh bien on va montrer comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Donc la première chose, ce sera de montrer qu'on peut retrouver le soliton fondamental, celui qui est écrit au tableau, là. Et puis ensuite, on s'intéressera à des solitons d'ordre supérieur. Vous verrez ce que j'entends par là. Bien. Alors, allons-y et commençons donc par cette évolution temporelle et robustesse d'un soliton. Je commence avec vous remontrant un diagramme que j'avais déjà fait la dernière fois, qui était une méthode relativement intuitive pour trouver la taille d'un soliton et comprendre pourquoi, à une dimension, ces solitons sont stables. Donc je rappelle très brièvement ce qu'on avait fait la dernière fois sur le sujet. On avait pris grand N particules en interaction attractive et on s'était dit, formons un paquet d'ondes de taille donnée, petit L. Et puis on avait calculé les deux énergies en jeu dans le problème. La première, c'était l'énergie cinétique, qui est proportionnelle au nombre de particules, puisque c'est une énergie à un corps, et qui était inversement proportionnelle au carré de la taille du paquet d'ondes. Et puis la deuxième contribution, c'était l'énergie d'interaction, donc c'était une somme sur toutes les paires de particules, donc la loi d'échelle était en n carré, et ce qu'on avait trouvé, c'est que c'était inversement proportionnel à la taille du paquet d'ondes petit l, et puis comme je prends des interactions attractives, mon paramètre petit g est négatif, donc j'avais écrit ça moins valeur absolue de g, pour bien me souvenir que l'énergie d'interaction est négative, alors que l'énergie cinétique, elle, est positive. Donc on était en face d'une énergie qui était comme ça. À grande distance, c'est l'énergie potentielle, l'interaction qui domine, donc le moins 1 sur L. À courte distance, c'est l'énergie cinétique, en plus 1 sur L2. On avait notre minimum, et c'est ça comme ça qu'on avait trouvé cette taille de X0 qui doit être encore écrite au tableau. Là. Voilà, et l'énergie en moins N cube également. Alors, dans tous les problèmes, tous les exercices qu'on fait en mécanique ou en physique, disons, en général, quand on est face à une courbe comme ça, il y a une question qui vient tout de suite, c'est calculer la période des petites oscillations au fond du puits. C'est vraiment typique, vous avez une énergie qui est présente un minimum quelque part, eh bien, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe ici si je n'ai pas exactement la bonne taille? Est-ce qu'on peut voir vraiment notre soliton osciller au fond d'un puits? Alors la réponse est non, c'est un peu plus compliqué que ça, et je vais vous expliquer pourquoi, au moins sans faire toutes les mathématiques, mais comment est-ce qu'on peut montrer que, si vous voulez, il n'y a pas de mode propre d'un soliton, au moins dans le cas d'une équation intégrable, comme l'équation de Schrödinger non linéaire. S'ils avaient des modes propres, comment est-ce qu'on s'y prendrait pour les étudier? Ce qu'on prendrait, c'est l'équation d'onde, on prendrait la solution stationnaire et puis on linéariserait l'équation d'onde au voisinage de cette solution stationnaire. Donc, faisons ça, c'est la méthode de Bogoliubov dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, je prends la solution stationnaire d'énergie négative, le ψ0 de x, celui qui est écrit au tableau, là, et puis je lui rajoute une petite perturbation. Donc, le ψ0 de x, lui, il oscille en e puissance moins i muté sur h bar, c'est également au tableau. Donc, j'ajoute une petite perturbation qui dépend de x et qui va osciller à une fréquence oméga par rapport au potentiel chimique mu qui est écrit ici. Puis je dis qu'elle est petite, cette perturbation, puisque si je prends mes coefficients U et V d'ordre 1, eh bien je les multiplie par un epsilon, où epsilon est mon paramètre de développement. Epsilon est très petit devant 1. Voilà. Et la méthode de Bogoliubov, c'est donc injecter ça dans l'équation d'onde qui est écrite au tableau et regarder ce qui se passe à l'ordre 1 en U et V pour trouver les modes propres. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est la chose suivante. D'abord, on trouve deux modes qui sont à une fréquence nulle, oméga égale 0. Ces modes, c'est ce qu'on appelle en physique statistique des modes de Goldstone, c'est lié au fait qu'on a une symétrie continue dans le problème, en fait on a deux symétries continues dans le problème, et il y a des modes de fréquence nulle associés à ça. Donc la première symétrie, c'est la symétrie de translation. Le soliton que j'ai écrit ici, je l'ai centré en x égale 0, mais j'aurais pu le centrer en n'importe quel point, Mon problème est invariant par translation. Et donc j'ai un mode de fréquence nulle qui simplement me traduit le fait que j'ai cette invariance de translation. Je peux remplacer psi de x par psi de x plus a, quel que soit, et je retombe sur un objet qui a la même énergie. Donc ça, c'est un mode de fréquence nulle. On l'attendait, il est là, tout va bien. Le deuxième mode de fréquence nulle, c'est la symétrie U1, le fait que je peux choisir la phase de ma fonction d'onde de manière arbitraire. J'ai écrit une fonction d'onde qui, à l'instant t égale 0, était réelle, mais j'aurais très bien pu prendre une fonction d'onde multipliée par la puissance θ, où θ était un nombre quelconque. Et donc là encore, j'ai un mode de fréquence nulle associé à cette symétrie. Bon, ces deux modes sont là, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le point important, c'est que tous les autres modes, ceux que j'aurais pu espérer vous trouver en correspondant à des petites oscillations localisées de mon soliton, bien les autres modes, ces modes localisés n'existent pas. Tous les autres modes que je vais trouver ont une fréquence oméga qui va être supérieure à la valeur absolue du potentiel chimique. C'est-à-dire que j'ai mon potentiel chimique mu ici qui sur l'échelle d'énergie qui est négatif, qui correspond au fait que je dois payer un certain prix pour arracher une particule de mon système. Eh bien, les modes propres ont une énergie qui est mu plus quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif, je peux l'écrire sous forme h bar 2 k2 sur 2m, ce qui veut dire que ces modes, en fait, correspondent à une évaporation de particules. La seule manière d'exciter mon soliton, en plus des modes de fréquence nulle, la seule manière d'exciter le soliton, c'est de prendre une particule dans le soliton et de l'envoyer à l'infini avec une certaine vitesse h bar k sur m, et donc une énergie cinétique h bar 2 k2 sur 2m. Donc, encore une fois, un soliton n'a pas de mode propre au sens quelque chose qui le ferait osciller sans la moindre perte de particules. La seule manière d'exciter un soliton, c'est de lui arracher des particules pour mon équation intégrable. J'insiste bien là-dessus. Si je perds l'intégrabilité, je peux obtenir des modes propres localisés. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici apparaître, c'est donc des modes délocalisés qui correspondent à cette évaporation. Elle va revenir fréquemment, cette évaporation. Et là, je vous en donne un exemple. Cet exemple, il est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Que se passe-t-il si je prépare mal mon soliton ? Imaginons que je cherche à préparer un soliton de masse 2, donc je cherche à préparer mon 1 sur cosinus hyperbolique de x à l'instant t égale 0 ici, mais je m'y prends mal et ce que je prépare, c'est une fonction triangle, là, voilà, cette fonction-là, t égale 0. Ça ressemble un peu à un sur cosinus hyperbolique, c'est localisé au voisinage de 0. Je lui donne la bonne masse, donc je lui donne bien l'intégrale de u carré égale 2, mais ce n'est pas un cosinus hyperbolique. Que se passe-t-il quand je fais évoluer cette fonction d'onde avec l'équation d'onde qui est écrite au tableau, que j'ai réécrite en haut là. Et je prends pour ça, sur mon ordinateur, un très grand segment, je prends un segment qui a une longueur de 640, alors que la distance de la taille de mon triangle, là, c'est de l'ordre de l'unité. Donc, je prends un très grand segment pour laisser la place à mes particules de s'évaporer, éventuellement. Et c'est effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au temps court, vous voyez que le triangle se déforme ici, et puis vous avez des particules qui sont en train de s'en aller vers la droite et vers la gauche. Et puis, au fur et à mesure où le temps s'écoule, eh bien, les particules qui s'en vont partent vraiment loin. Et ce qui reste, c'est quelque chose qui est asymptotiquement égal au 1 sur cosinus hyperbolique que j'attendais. Alors, ce n'est pas exactement le 1 sur cosinus x, c'est plutôt du kappa sur cosinus kappa x, avec un kappa légèrement inférieur à 1, c'est-à-dire que j'ai quand même eu de l'évaporation, donc je prépare un soliton avec un petit peu moins de particules. Mais si je compte combien j'ai de particules là-dedans, donc là, je prends l'intégrale de cette fonction, du carré de cette fonction, je la prends entre moins 20 et 20, sachant encore une fois que j'ai un segment qui a une longueur de plus de 600, Ce que vous voyez, c'est que la masse initiale vaut 2, ça c'est l'air de u carré à l'instant t égale 0, et puis cet air décroît de 1% à peu près, donc je passe de 2 à 1,98. La densité centrale, elle commence par osciller, avant de se stabiliser à une valeur très légèrement inférieure à 1, et à la fin, eh bien, ce que j'ai préparé, c'est donc un soliton qui n'a pas exactement la bonne masse, mais c'est quand même un soliton. Donc ça, c'est remarquable, c'est par filtrage, si vous voulez, j'arrive à fabriquer un soliton à la fin. Et ça, on va l'expliquer avec la méthode IST qu'on va voir tout à l'heure. Alors, un mot d'histoire, cette chose-là, dès que ça a été compris, peut-être le premier à l'avoir publié, c'est M. Hasegawa en 1972, bien, les gens se sont dit qu'un bon moyen de mettre ça à profit, c'était d'utiliser les solitons dans les télécommunications. C'est-à-dire que quand vous faites des solitons optiques dans des fibres optiques, bien le fait que les solitons soient aussi robustes, c'est parfait, parce que ça veut dire que même si initialement vous n'auriez pas exactement le bon soliton, vous codez votre signal sur le soliton, même si vous n'envoyez pas exactement le bon soliton, de toute façon il va se purifier. S'il s'atténue parce que votre fibre n'est pas parfaite, ce n'est pas très grave, ça restera un soliton, la masse sera un petit peu moins grande, mais tant qu'il y, y a assez d'énergie dans votre paquet d'ondes, ben, votre destinataire pourra décoder le message. Alors, c'était une très bonne idée, elle a failli marcher, enfin elle a failli être implémentée, je crois même qu'elle l'a été en quelques endroits, et puis finalement ça ne l'a pas été parce que les gens se sont plutôt tournés vers des fibres à plus gros cœur, des fibres multimodes, donc dans un régime linéaire, avec du multiplexage en fréquence. Donc c'est un exemple de très belle idée qui n'a pas vraiment servi. Je cite dans les notes un article de John Dudley, et co-auteur, et aussi un article de Hasegawa, l'article d'Hasegawa est plein de nostalgie, c'est-à-dire qu'il explique que c'est, bon, ça a failli marcher dans les années 80-90, il y avait des gens qui étaient prêts à l'implémenter, puis finalement non, voilà, c'est des articles qui sont sortis donc, juste 50 ans après pour célébrer le cinquantenaire de l'idée, qui, je vous dis, ils ont un petit peu de nostalgie, ce qu'on comprend aisément. Voilà. Donc, voilà, on a ces résultats, cette robustesse du soliton, et je vous propose donc de l'expliquer, cette robustesse, avec cette méthode IST. Alors, pour expliquer comment est-ce que la méthode IST fonctionne, je vais faire un parallèle avec la manière dont on s'y prend quand on doit résoudre une équation linéaire, comme l'équation de Schrödinger. Et quand on doit faire ça, eh bien, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait une décomposition en mode propre du système. Donc, je commence par ça, je commence par vous rappeler comment est-ce qu'on s'y prend pour résoudre une équation linéaire, et puis ensuite, eh bien, j'expliquerai les bases de la méthode IST. Donc, je commence par la résolution d'une équation linéaire. Et je prends donc comme exemple l'équation de Schrödinger, celle qu'on apprend dans les petites classes, hein, sans la moindre non-linéarité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par regarder les modes propres. Alors, on peut dire qu'on fait pour ça un développement en Fourier, mais plus généralement, si j'ai mon équation de Schrödinger avec un Hamiltonien H, ce que je cherche à résoudre, c'est donc l'équation valeur propre pour H, et je trouve les vecteurs propres et les valeurs propres, H agissant sur phi lambda égale E lambda fois phi lambda. Et le spectre d'énergie en lambda, il peut être discret, ça correspond à des états liés, ou il peut être continu, ça correspond à des états de diffusion. Et donc, une fois que j'ai fait ça, si vous me donnez une fonction à l'instant initial, donc un psi de 0 à l'instant initial, voilà, et si je me demande ce que vaut psi de t, eh bien, j'ai une solution qui est de faire tourner l'équation de Schrödinger IH bar des psi sur dt sur mon ordinateur, IH bar psi point égale H psi sur mon ordinateur. Mais ça peut être difficile. Si je connais mes modes propres, le plus simple, c'est de trouver ce que je vais appeler les amplitudes C lambda de 0. C lambda de 0, donc c'est le développement de psi de 0 sur la base des états propres. Une fois que j'ai ça, vous savez, je peux reconstruire mon psi lambda de 0 comme étant une somme sur tous les lambdas des C lambda de 0 phi lambda. Alors j'écris une somme, ça peut être aussi une intégrale. Je vais mettre ce symbole-là pour dire que ça peut être une somme soit sur la partie discrète du spectre, soit sur sa partie continue. Et quand j'ai fait ça, quand je connais mes C lambda, que j'obtiens simplement en prenant un produit scalaire, à ce moment-là, le C lambda de T, je l'ai tout de suite, c'est C lambda de 0 et puissance moins I E lambda T sur H bar. Et une fois que j'ai les C lambda de T, eh bien, revenir à psi de T, c'est très simple. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait tous en physique quantique. Hein, c'est plutôt que de résoudre cette équation-là numériquement, en général, eh bien, on préfère décomposer sur les modes propres. Voilà. Eh bien, la méthode IST, finalement, ça va essayer de dupliquer ça, mais pour une équation non linéaire. Alors, ça va venir avec des complications, mais néanmoins, c'est ça l'esprit. Donc, je le fais maintenant. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié à ce stade. Non, c'est bien ça. Donc, résolution une équation non linéaire. Et alors là, il faut que j'ajoute quelque chose d'essentiel, c'est que mon équation elle est intégrable. Donc mon équation, c'est par exemple celle que mon équation pour de Schrödinger non linéaire, iut plus uxx plus 2 fois u carré u égale 0. Et on va se donner donc à un instant initial une fonction u de x est de 0. On aimerait connaître le u de x et de t. Un moyen de le faire, c'est de résoudre cette équation-ci, mais ça devient de plus en plus difficile, c'est encore plus dur que ça, parce que celle-ci, elle est linéaire, mais celle-ci, elle est non linéaire, donc numériquement, ça n'a rien d'évident. Donc l'idée, c'est de contourner, de faire un chemin alternatif comme celui que j'avais ici. C'est-à-dire qu'on va, à partir de ça, générer ce qu'on va appeler des données de diffusion. Alors, je vérifie dans quel ordre je les écris, voilà. OK, données de diffusion. Alors, ces données de diffusion, je vais tout de suite leur donner un nom. Ces noms ne vont rien vous dire pour l'instant, mais j'espère que dans la suite, leur signification physique ou mathématique va s'éclaircir. Donc, je vais les appeler A lambda de 0, B lambda de 0. Donc, ça, c'est un premier jeu de données. Et puis ensuite, un autre jeu de données, c'est ce que je vais appeler lambda J de 0 et CJ de 0. Alors, encore une fois, vous n'avez pas la moindre idée à ce stade de ce que sont les A, les B, les lambda et les C. Hein. Ce n'est pas grave, ça va s'arranger. Ces données de diffusion, on va les faire évoluer. Donc, on va obtenir comme ça un A lambda de T, un B lambda de T, et puis un lambda J de T et un CJ de T. Et puis ensuite, eh bien, on procédera à l'inversion. Donc, ça, c'est la fabrique, si vous voulez, des données de diffusion. Ça, c'est leur évolution. Et ça, c'est leur inversion. Et on va faire ensemble chacune de ces trois étapes, au moins sur des cas simples, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'y prendre donc pour traiter ce problème non linéaire. Voilà. Alors, comment est-ce que ça marche, ça ? Eh bien, encore une fois, c'est pour une équation non linéaire, mais intégrable. Alors, la première chose à faire, c'est d'introduire ce qu'on appelle des opérateurs de l'axe. Ces opérateurs de l'axe, donc je vais repartir d'ici, ce sont des opérateurs que je vais noter grand L et grand A, et ce sont des opérateurs, je vais vous dire dans quel espace ils travaillent dans un instant, mais ce sont des opérateurs donc, qui sont des fonctions de... qui sont des fonctions de la fonction inconnue petit u. Donc si je connais u de 0 à l'instant 0, u de x à l'instant 0, eh bien je sais fabriquer mes opérateurs de l'axe à l'instant 0. Allons-y. Opérateur de l'axe, donc que je note grand L, qui sont des fonctions de u, de x et de t, et grand A, de u, de x et de t. Je vais vous les écrire, hein, ces opérateurs, ne vous inquiétez pas. Mais à ce stade, je les écris de manière formelle, comme ceci. Ces opérateurs, oui, qui ne sont pas forcément hermitiens, donc il faut faire un petit peu attention. L'intuition qu'on a des opérateurs en physique quantique fait qu'on manipule souvent des opérateurs hermitiens, là, ils ne sont pas nécessairement hermitiens. Mais le point essentiel, c'est la chose suivante. C'est que là, on va réécrire le fait que U est solution de l'équation différentielle, donc cette chose-là, on va la réécrire en fonction des opérateurs L et A. Et plus précisément, la manière dont on va s'y prendre, c'est qu'on va choisir L et A de telle sorte que U de X et de T est solution de l'équation de Schrödinger non linéaire si et seulement si donc, dL sur dt égale le commutateur de A avec L. Alors, je vérifie que je ne me trompe pas dans les signes, parce que ce serait dommage, mais c'est bien ça. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va transposer le fait d'être solution d'une équation non linéaire, en l'occurrence l'équation de Schrödinger, on transpose ce fait par une relation algébrique entre deux opérateurs A et L. Pour l'instant, je ne vous ai rien dit sur les opérateurs A et L, enfin, je ne vous ai même pas dit dans quel espace ils travaillaient. Donc ça, je réponds tout de suite à la question où est-ce qu'ils travaillent. Ça dépend de l'équation non linéaire qu'on considère, mais si l'équation non linéaire, c'est l'équation de Schrödinger, eh bien, ces opérateurs travaillent dans un espace de spinner à deux composantes, comme ça, phi A de x, phi B de x, où phi A de x et phi B de x sont des fonctions complexes de la variable petit x. Donc voilà, ça c'est l'espace dans lequel je me place, et je peux vous donner tout de suite au tableau la forme de grand L. Donc grand L, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être une matrice 2 par 2, puisqu'il doit agir sur ces matrices phi A de x et phi B de x, mais c'est une matrice 2 par 2 qui fait intervenir éventuellement les dérivés par rapport à x ou la fonction u de x. Hein, grand L, c'est une fonction de u. Eh bien, grand L, son expression est la suivante. Il y a un i devant, j'ai un d sur dx ici, j'ai un u donc de x. Donc si je l'écris L à l'instant t égale 0, donc c'est L de u de x, t égale 0 sera u de x 0. Je vais peut-être mettre tout de suite L, ou je peux le mettre en fonction de t après tout, de u de x et de t. Donc à ce moment-là, je mets t ici. Ici, je mets u étoile de x et de t, donc le complexe conjugué de u, et ici je mets moins dx. Voilà la forme de grand L. Donc là encore, je vérifie que je ne me trompe pas dans les signes, tout va bien, c'est ça. Donc ça, c'est la forme de grand L. Et donc quand je vais devoir calculer dl sur dt, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, dl sur dt, quand je fais l'opération d sur dt, ben, d sur dt de la dérivée par rapport à x, ça donne 0. Hein, d sur dt et d sur dx sont deux opérations indépendantes. Donc je vais trouver ici 0. Ici, d sur dt de u, ben, c'est ce que j'ai noté toujours, u indice t. D sur dt de u étoile, c'est u étoile indice t. Et puis d sur dt de moins sur dx, c'est 0. Voilà. Donc le dl sur dt, il est très simple, partant de L. Maintenant, qu'est-ce que je dois prendre pour A? Alors ça, c'est tellement compliqué que je ne vais pas l'écrire au tableau, mais je vous le mets sur la diapositive. A, on ne va pas s'en servir beaucoup. Il est juste là. C'est important qu'il soit là, mais on ne va pas le manipuler. Donc grand A, il a cette forme-là. Donc vous voyez qu'il est plus compliqué, lui. Il fait intervenir des dérivées secondes par rapport à x. Il fait intervenir des dérivées de u par rapport à x également. Voilà. Alors maintenant, vous avez A, qui est ici. Vous avez L qui est ici, et je vous encourage vivement, s'il pleut ce week-end, à calculer le commutateur de A avec L, donc c'est des dérivées partielles de tout ce petit monde, et vous allez trouver, si vous ne vous trompez pas, que le commutateur de A avec L est égal à 0 sur la diagonale, et puis ici, en haut à droite, moins u xx, donc dérivée seconde de u par rapport à x, moins 2 fois module de u carré u. Et puis en bas à droite, c'est juste le complexe conjugué avec un signe changé. Et vous voyez que mon équivalence est bien là, puisque dl sur dt, c'est i fois ut, et commutateur de A avec L, c'est, si je prends le terme en haut à droite, moins uxx moins 2 fois u carré u. Donc, si u est solution de l'équation de Schrödinger non linéaire, alors j'ai bien cette chose-là qui est vérifiée, et si cette chose-là est vérifiée, ben, j'ai bien la réciproque que u est solution de l'équation de Schrödinger non linéaire. Donc, on a bien, pour cette équation de Schrödinger non linéaire, trouvé un moyen de transposer le fait que mon U était solution en le transposant avec cette équation qui est une équation algébrique entre opérateurs. Et c'est ça qu'on va manipuler maintenant. Alors, une restriction à ce que je vais faire, dans tout ce qui va suivre, je vais me limiter au cas où ma fonction U est localisée dans l'espace, c'est-à-dire que je suppose qu'elle tend suffisamment vite vers 0 en plus ou moins l'infini, il y a des moyens de faire aussi cette théorie si u tend vers une limite finie non nulle à l'infini. Bien, alors, une fois qu'on a fait ça, on va revenir à notre schéma et c'est là qu'on va chercher à fabriquer les données de diffusion, puis à les faire évoluer, puis à les inverser. Et la fabrique des données de diffusion va se faire essentiellement avec l'opérateur L qui est écrit ici. C'est lui qui va nous servir. Alors, ah oui, quand on est assis au premier rang, on a du mal à voir, hein, je suis désolé. Donc, les données de diffusion, quelles sont-elles? Donc, je vais avoir de nouveau besoin du tableau. Les données de diffusion, eh bien, ce sont les fonctions propres et les valeurs propres de grand L. Donc, c'est vraiment avec L qu'on va travailler. A jouera un rôle, mais un petit peu plus tard. Donc, ce que je vais considérer, c'est des spinners que je vais noter phi A et phi B, telle sorte que L agissant sur phi A et phi B soit égal à lambda fois phi A phi B. Je vais me poser la question de trouver, résoudre le problème aux valeurs propres pour cet opérateur grand L qui est écrit ici. Alors, attention, hein, grand L n'est pas hermitien. Je peux le réécrire ici. Je l'avais déjà dit, mais c'est important. Ce qui implique que son spectre de valeurs propres, il est complexe. Hein. Les valeurs propres ne sont pas nécessairement des nombres réels. Et on va le voir dans un instant. Bien. Alors, ce spectre, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Eh bien, je peux m'inspirer de ce qu'on sait sur l'équation de Schrödinger linéaire, encore une fois. Je vous l'ai dit, on sait que quand on essaie de résoudre le problème aux valeurs propres pour l'équation de Schrödinger, on trouve soit un spectre continu, des états de diffusion, soit des états localisés, des états liés. Alors là, il va se passer exactement la même chose. Je suis en présence d'un problème qui n'est pas l'équation de Schrödinger. Si je devais dire, le rapprocher de quelque chose, ce serait plutôt l'équation de Dirac, puisque mon L, ça fait intervenir les dérivées premières par rapport à X, donc c'est l'équivalent de l'impulsion qui intervient dans l'équation de Dirac. Mais ce n'est pas quand même un Hamiltonien de Dirac, c'est un petit peu différent puisqu'il n'est pas hermitien. Mais ce que je vois, c'est que j'ai donc un terme avec un D sur DX, qui est une sorte d'impulsion, et puis le U ici, ma fonction inconnue, qui joue le rôle de potentiel diffusant. Donc, si je m'intéresse déjà pour commencer aux états de diffusion, donc si j'essaie de mettre mon axe X comme ça, et puis sur cet axe X, donc, je vais délimiter une zone, je vais mettre en rouge, ici, voilà, ça c'est la zone où, alors je vais l'écrire comme ça, zone où U est non négligeable. Donc là, c'est une zone où je ne peux pas dire grand-chose. Je peux dire quelque chose seulement si je résous numériquement, mais là, U dans cette équation joue un rôle important. En revanche, si je suis en dehors de cette zone, eh bien, le coefficient en haut à droite, ici, et puis en bas à gauche, ne joue pas, et j'ai simplement du D sur DX. Donc là, c'est très simple. Donc dans cette zone-là, dans la zone de gauche ici, puis dans la zone de droite ici, je m'attends à trouver des états de diffusion, donc des états qui vont osciller comme ceci, et puis des états qui vont osciller comme cela. Je vais être un petit peu plus précis dans un instant. Et puis, je vais aussi avoir donc des états liés. Donc, je fais le même dessin. Donc, ça, c'est l'état de diffusion. Puis, je vais aussi avoir des états liés. Et ces états liés, donc, j'ai toujours ma zone ici, où U prend des valeurs non négligeables. Et puis en dehors de cette zone, eh bien, ce que je veux, c'est que mes fonctions phi A et phi B décroissent comme ceci pour représenter donc un état lié. Voilà, donc ça, c'est ce que je m'attends à trouver très généralement quand je vais résoudre le problème aux valeurs propres pour l'opérateur grand L. Et donc, comme je l'ai dit, les valeurs propres que j'attends, elles peuvent être complexes, hein, donc il va falloir que je les mette dans un plan où ici je mets partie réelle de lambda, et puis ici, imaginaire de lambda. Et mes valeurs propres vont remplir cet espace, enfin le remplir d'une manière qu'on va comprendre ensemble, selon que je m'intéresse à ces états-ci ou ces états-là. Voilà. Alors, essayons d'être un petit peu plus précis, et là je vais le faire sur diapo pour ne pas quand même écrire trop de choses au tableau. Mais vous allez voir, c'est simplement, on va mettre quelques équations sur ce que je viens de décrire de manière qualitative. Donc, on est censé résoudre ici, enfin on veut résoudre le problème aux valeurs propres pour grand L, celui-ci. Hein, grand L phi A phi B égale lambda phi A phi B, lambda est un nombre complexe. Qui est ce problème donc, aux valeurs propres, quand je développe et que j'utilise la forme de grand L écrite ici, c'est donc, on le regarde ensemble, hein, i fois d sur dx de phi a plus iu de x phi b égale lambda phi a, moins i dx phi b, c'est ce moins i-là, ici, plus u étoile phi a égale lambda phi b. Et là-dedans, bien, comme je disais, cette fonction u de x joue le rôle de potentiel diffusant et je cherche ce qui se passe si je me mets loin de la région où le u de x prend des valeurs significatives pour dire des choses sur la forme asymptotique des états propres. Donc, si je me mets dans cette zone où u de x est négligeable, donc je peux négliger ce terme-ci, je peux négliger ce terme-là, et à ce moment-là, eh bien, mon équation est très simple, c'est d sur dx phi a égale moins i lambda phi a, d sur dx phi b égale i lambda phi b. Et les solutions sont donc en phi a de x égale e puissance moins i lambda x, phi b égale e puissance plus i lambda x. Ça, c'est bien des états de diffusion que j'attends si je prends lambda réel. Si je prends lambda réel, hein, c'est les ondes planes e puissance ikx et e puissance moins ikx auxquelles on est habitué. Donc ce que je vois, c'est que tous les lambdas réels vont convenir pour me donner des états de diffusion. Donc ça, je peux tout de suite le mettre dans mon graphe ici. Tous les lambdas réels, là, voilà, correspondent à des états de diffusion, donc des états qui se comportent comme des ondes planes vis-à-vis pour les fonctions propres phi a phi b à l'infini. Alors, comme toujours dans ces cas-là, hein, on a un espace vectoriel de dimension 2, donc on peut se restreindre à un type de solution, et puis après on obtient les autres par faisant des complexes conjugués. Donc si je remets ma zone où u de x prend des valeurs significatives ici, ce que je vais prendre comme convention, c'est que je vais me limiter aux solutions où j'ai une onde qui arrive ici de la droite, elle peut être réfléchie, et puis elle peut être transmise. Et je vais prendre par convention que ici, la partie transmise, c'est simplement puissance moins i lambda x, et puis 0 sur la deuxième composante. Et donc là, je vais mettre un A lambda ici et puis un B lambda là. B lambda, c'est donc, si vous voulez, le coefficient de réflexion. Et puis de A lambda, je déduis le coefficient de transmission. Donc ça, eh bien, ce sont mes deux premières données de diffusion. Voilà, c'est pour cette équation-ci, je fabrique l'opérateur L. Et une fois que j'ai l'opérateur L, je le diagonalise et j'en déduis ce A lambda de 0 et ce B lambda de 0. Je ne vous dis pas encore comment ça évolue, ça, hein, mais pour l'instant, je vous donne ces deux premières. Bien. Maintenant, on peut regarder les autres types d'états, c'est-à-dire les états liés de L. Alors, même chose, ça commence exactement de la même façon. Hein, je cherche à résoudre le problème aux valeurs propres pour l'opérateur L, qui se transcrit de manière explicite pour les phi a et phi b de cette manière-là. Je me mets toujours dans la zone où u de x est négligeable, c'est-à-dire soit complètement à gauche ici, soit complètement à droite là. J'ai toujours mes solutions à ce moment-là qui sont en e puissance moins i lambda x ou e puissance plus i lambda x, mais je veux maintenant que ces fonctions décroissent à l'infini. Donc là, je n'ai pas le choix. Si je veux que e puissance moins i lambda x décroisse à l'infini, il faut que je donne à lambda une partie imaginaire avec le bon signe, pour que ça corresponde à une exponentielle décroissante. Donc, ce que je comprends tout de suite, c'est que si maintenant je cherche les états liés, il va falloir que je les cherche soit dans le plan complexe supérieur, soit dans le plan complexe inférieur, pour avoir des fonctions qui décroissent à l'infini. Alors, là encore, on fait un choix de base, sachant qu'on peut obtenir les autres solutions en prenant des complexes conjugués ou en échangeant les rôles de phi a et phi b. Ce qu'on prend traditionnellement, c'est que on prend ici un e puissance eta x pour la composante phi a et puis 0 pour la composante phi b, donc avec eta j positif ici, pour que cette fonction décroisse bien quand je fais tendre x vers moins l'infini. Et à ce moment-là, ce qu'on obtient à droite, c'est forcément quelque chose qui vaut 0 sur la première composante et puis e puissance moins eta j de x sur la seconde, c'est ce qui découle de ce système écrit juste au-dessus. Et donc là, j'obtiens deux autres paramètres pour caractériser cet état lié, en plus des a et de lambda et des b lambda, c'est le coefficient c, c'est-à-dire connaissant l'amplitude de ma fonction à gauche, quelle est l'amplitude de la fonction à droite, c'est c qui le caractérise, et puis j'ai la valeur de état j, enfin ou plus exactement la valeur de lambda j, qui me dit ce que je dois prendre. Alors là, j'ai pris état j positif. Comme je disais, si j'échange les rôles de phi a et phi b, à ce moment-là, je vais obtenir quelque chose qui sera non nul sur la deuxième composante ici et nul sur la première, et vice-versa là. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir état j, j'aurai le complexe conjugué de état j, c'est-à-dire je changerai au lieu d'avoir lambda j, j'aurai le complexe conjugué de lambda j, ce qui veut dire que j'échangerai le signe de la partie imaginaire lambda. Donc, pour ne pas faire du double comptage, je vais me limiter dans tout ce qui suit au demi-plan complexe supérieur, c'est-à-dire ce type de solution. Donc, avec ce type de solution, là, ce que je vois, c'est que je vois apparaître des étaliers qui seront vraisemblablement en nombre discret, hein, comme souvent pour les étaliers. Donc, si j'ai par exemple cet étalier-là, je sais que j'aurai le complexe conjugué ici, c'est ce que je viens de dire. Je peux en avoir un ici, j'aurai sa paire là, et puis je peux en avoir un sur l'axe, j'en aurai sa paire là, etc. Voilà. Donc, je peux le mettre en rouge d'ailleurs, puisque j'ai pris du rouge pour le spectre continu. Voilà. Voilà donc ce qu'on attend quand on résout le problème aux valeurs propres pour grand L. On trouve la partie continue qui va être caractérisée par les coefficients de réflexion et de transmission, donc les A lambda et les B lambda, et puis la partie discrète du spectre caractérisée par les valeurs propres lambda J qui sont dans le plan complexe, qui ne sont pas sur l'axe réel. Il faut qu'elles aient une partie imaginaire pour être éligibles à cause de la décroissance exponentielle dont j'ai besoin. Et puis le coefficient CJ qui me relie finalement l'amplitude à droite par rapport à l'amplitude à gauche, à gauche de la zone où U est significative. Voilà. Bien. Donc ça, c'était pour la fabrication des nœuds de diffusion. Maintenant, passons à leur évolution. Alors, leur évolution, je ne vais pas la faire complètement, mais je vais la faire pour un des paramètres, qui est le paramètre lambda J. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, lambda J n'évolue pas. C'est-à-dire que si j'ai un certain lambda J à l'instant t égale 0 pour ma fonction u de x est de 0, eh bien, lambda J va rester constant. Et pour ça, eh bien, je peux me faire de la place ici. Je vais juste garder cette équation-là. Et ce que je vais introduire, c'est ce que je vais appeler des opérateurs d'évolution, un opérateur d'évolution, que je vais noter grand U. Et cet opérateur d'évolution grand U, je suppose qu'il est la solution de l'équation du sur dt égale, alors que je ne me trompe pas dans le sens, c'est ua ou au, au. Voilà, et donc j'ai aussi la partie en u-1, du-1 sur dt, qui vaut moins, cette fois-ci ça va être u-1 fois grand A. Voilà. Et alors, avec cet opérateur d'évolution, on peut résoudre formellement cette équation d'évolution pour L, et on trouve que L de t, c'est u de t, grand L de 0, u-1 de t. Ou si vous préférez, en multipliant par u à gauche et à droite, L de t fois u de t égale u de t fois L de 0. Voilà, c'est là que j'ai utilisé l'opérateur A. L'opérateur A ne me sert qu'à ça. L'opérateur A me sert à montrer cette relation-là, que L de t, u de t est égal à u de t, L de 0. Mais c'est essentiel, parce que si maintenant je prends cette équation, qui est une équation entre opérateurs, et que je la fais agir sur un état propre particulier de l'opérateur L de 0. Donc allons-y. L de t, u de t, agissant sur un état propre particulier phi a phi b de l'opérateur L de 0. Donc c'est u de t, L de 0, agissant sur phi a phi b. Et puisque par définition phi a phi b est état propre de L de 0, avec la valeur propre que je vais noter lambda, ça c'est égal à lambda fois u de t, phi a phi b. Et cette chose-là, bah, si je fais de la lecture globale, ce que je vois, c'est que L de t agissant sur ce vecteur-là, sur ce spinner-là, u de t, phi a phi b, est égal à lambda fois ce même vecteur. D'où je déduis que si lambda est valeur propre à l'instant t égale 0, il reste valeur propre à l'instant t. Et ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire évoluer mes données de diffusion. Ce que je déduis tout de suite, là, c'est que lambda j de t est égal à lambda j de 0. Alors, on peut faire la même chose pour les trois autres jeux de données de diffusion. Je ne vais pas le faire, parce que ça m'emmènera un petit peu loin, mais ce qu'on peut montrer, c'est donc le cj de t est égal à cj de 0, et puissance, alors je vais aller vérifier le signe 4i lambda carré t. Il faut que je regarde si ce n'est pas un signe moins ou un signe plus. C'est un signe plus, tout va bien. On trouve que l'A lambda n'évolue pas, en lambda de t égale à lambda de 0. Et on trouve que les B lambda de t évolue comme les CJ et puissance 4i lambda de t. Voilà, donc on a résolu la deuxième partie là, qui est l'évolution des nœuds de diffusion. Donc vous voyez, on progresse. Hein. Ce qui reste à faire, si on veut être complet, c'est les inverser, les données de diffusion. Et ça, je dirais, c'est la partie la plus douloureuse de l'étape. C'est une partie, je vous dirai dans un instant comment on fait, mais c'est la partie la moins simple. Mais fort heureusement, on peut dire déjà beaucoup de choses si on se limite aux deux premières étapes, essentiellement la première, puisque la deuxième elle est triviale, hein, c'est dire que les choses sont constantes. Si on se limite aux deux premières étapes, on peut déjà dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est donc qu'on a déjà déterminé le spectre, et ce spectre, finalement, ça nous fait ce qu'on appelle un portrait spectral de la fonction initiale U de X et de 0. Et plus précisément, ce que vous allez voir, c'est que la détermination des valeurs propres, lambda, eh bien, ça nous renseigne sur la nature des solitons qui peuvent être dans le système. En fait, pour vous dire tout de suite ce qu'on va trouver, c'est que ces croix, là, eh bien, ça, ce sont des solitons. Voilà, les solitons, ils sont là. Ce sont des solitons. Alors, quand même, je vous dis comment est-ce qu'on doit s'y prendre si vraiment on veut inverser des nœuds de diffusion. Donc, je vous rappelle où est-ce qu'on en est. On a diagonalisé L, on a obtenu des données de diffusion, les A de 0, B de 0, lambda C. On en a déduit les A lambda, B lambda de T, CJ de T, C lambda J de T. Alors, pour inverser les données de diffusion, donc pour faire cette dernière étape, là, ici, ce qu'il faut commencer par faire, c'est construire la fonction qui est écrite ici. Donc, c'est une fonction qui est une fonction de X, écrite à chaque valeur du temps petit t. Donc, ça fait intervenir le rapport des coefficients B lambda sur A lambda, donc coefficient de réflexion sur coefficient de transmission, fois et puissance I lambda de X, un spectre sur tout l'axe réel, puisque lambda, ce spectre-là porte sur la partie réelle, la partie des états de diffusion. Et puis, j'ai une deuxième contribution, qui est une contribution qui fait intervenir les états liés avec les CJ et les lambda J. Donc ça, on construit cette fonction, F, et ensuite, eh bien, il faut résoudre un système de deux équations, enfin, avec deux fonctions inconnues. C'est un système qui est linéaire, qui est un système intégral, c'est-à-dire que les deux fonctions inconnues, je les ai notées K1 et K2 ici, donc le temps est toujours spectateur hein, dans tout ça. Donc c'est K1 de XY et K2 de XY, et vous voyez que K1 étoile dépend de l'intégrale de K2 fois cette fonction grand F. K2 étoile dépend de l'intégrale de K1 fois cette même fonction grand F. Et il faut résoudre ça. Voilà. Et une fois que vous l'avez résolu, eh bien votre fonction U de X et de T, vous la trouvez simplement en prenant K1 au point Y égale X. Voilà. Alors, ce n'est pas facile à faire, hein, sauf dans des cas particuliers. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une étape qui n'est pas indispensable. On peut déjà dire beaucoup de choses, même si on ne fait pas cette étape-là. Et je vais essayer de vous en convaincre. Voilà. Donc là, je vous ai décrit de manière assez générale ce programme de IST pour l'équation de Schrödinger non linéaire. Et maintenant, on va le mettre en œuvre sur des cas particuliers. Le premier étant le soliton fondamental, celui qu'on connaît bien. Donc, je vous rappelle ce qu'on sait. C'est ce que j'avais mis en introduction. Donc là, je peux aller vite. On part de notre équation de Schrödinger non linéaire. On prend le soliton fondamental qui est le 1 sur cosinus hyperbolique de x, dont on sait qu'il évolue en puissance it sur cosinus hyperbolique de x. Et on connaît aussi également la solution, hein, si je ne mets centre pas en x égale 0, et je peux aussi mettre mon soliton en mouvement et tout ça. Bien, alors, est-ce que je peux retrouver ce résultat avec la méthode IST? Eh bien, la réponse est oui. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre la méthode IST dans ce cas particulier? Ben, il faut qu'on résolve l'équation valeur propre, je peux peut-être éteindre si vous voulez mieux voir l'écran. Je ne sais pas si ça marche, ça. Je ne vais plus avoir besoin du tableau, de toute façon. Donc, on doit résoudre l'équation valeur propre pour l'opérateur grand L, donc en prenant pour U 1 sur cosinus X. Donc, voilà le système qu'on doit résoudre. On a des fonctions spéciales qui nous permettent de résoudre ça sans difficulté. Et ce qu'on trouve, c'est donc l'ensemble des nombres réels comme spectre, ça c'était prévu, hein, c'est les états de diffusion, et puis une valeur propre complexe et une seule qui est i sur 2, plus précisément plus ou moins i sur 2, puisque je vous dis que les fonctions arrivaient par paires complexes conjuguées. Donc si je me limite au plan demi-plan complexe supérieur, pour éviter le double comptage, eh bien j'ai ce spectre-là. l'axe réel ici et la valeur propre sur l'axe imaginaire avec un module 1,5. Et les fonctions phi A et phi B ont cette allure-là, c'est-à-dire que vous avez ici à gauche c'est phi A qui domine, à droite c'est phi B qui domine, et c'est symétrique en x égale 0, puisque j'ai pris une fonction u qui était symétrique en x égale 0. Donc le coefficient qui me relie l'amplitude de phi B à droite à l'amplitude de phi A à gauche, eh bien ce coefficient vaut 1. Donc j'ai complètement déterminé mes données de diffusion dans ce cas-là. Donc là, je peux mettre en œuvre l'inversion. C'est probablement le seul cas où je sais faire, personnellement. Ce qu'on trouve, c'est donc, comme je vous dis, dans cette grosse fonction f que je dois construire une seule valeur propre imaginaire. Donc la somme sur les états discrets ici, il n'y aura qu'un terme. Et par ailleurs, pour le cosinus hyperbolique, en fait, tous les coefficients de réflexion sont nuls. C'est une propriété bien connue pour l'équation de Schrödinger qui reste vraie ici. Donc cette somme-là disparaît, enfin cette intégrale-là disparaît, et la somme ici est réduite à un seul élément. Donc c'est particulièrement simple. Mon f de x et de t, c'est simplement puissance moins it et puissance moins x sur 2. Le spectre, je l'ai remis ici. Donc là, tout se fait simplement. Je peux calculer mes fonctions k1 et k2, et je trouve que la fonction à l'instant t, eh bien, c'est simplement la fonction à l'instant 0 multipliée par le e puissance it. C'est ce qu'on connaissait. On est content de le retrouver, mais si la méthode IST ne servait qu'à ça, évidemment, ce serait un marteau-pilon pour écraser une mouche. Heureusement, ça fait bien d'autres choses. Alors, je vais quand même rester un instant avec le soliton fondamental, juste pour vous convaincre qu'on retrouve tous nos petits. Supposons qu'au lieu de centrer mon soliton en x, je le centre en x0. Je le décale sur l'axe des x. À ce moment-là, le système que je dois résoudre, le système aux valeurs propres pour mon opérateur grand L est celui-ci, avec ma fonction u de x qui apparaît là en x moins x0. Et à ce moment-là, je peux simplement réécrire les solutions que j'avais tout à l'heure en les translatant. Il suffit que je translate mes fonctions phi a et phi b de celles que j'avais à la diapositive précédente pour les ramener là où il faut. Donc, et à ce moment-là, j'ai de nouveau la solution de mon système. Donc, tout à l'heure, j'avais les solutions en pointillés ici pour phi a et phi b. Maintenant, quand j'ai translaté en x0, j'ai les solutions en trait continu. Et ce que je vois, c'est que je retrouve la même valeur propre. Donc le soliton qui soit centré en x égale 0 ou en x0, eh bien, ça me donne toujours cette valeur propre sur l'axe imaginaire pur au point i sur 2. Mais en revanche, ce qui est changé, c'est le coefficient c1, puisque je vous rappelle que le coefficient c1 me dit comment est-ce que la fonction phi a décroît à l'infini, à moins l'infini, par rapport à la manière dont phi b décroît à plus l'infini. Là, vous voyez que pour une distance donnée de 0, la fonction phi b ici, elle est plus grande que ce que ne serait phi a, si je l'extrapole, mon phi a, là, ici, que ne serait phi a à cette même distance du point 0. Donc c1 vaut simplement e puissance x0, et ça, quand je l'injecte dans l'évolution des données de diffusion, eh bien ça me permet de trouver le u de x et de t, qui vaut donc e puissance it cosinus hyperbolique de x moins x0. Donc ce qui est changé là, c'est le coefficient c1. Je n'ai pas changé le spectre. Quand je déplace mon soliton, je ne change pas le spectre, mais je change le coefficient C1. Maintenant, je peux prendre un soliton et changer sa masse. Je vous ai dit que je peux prendre 1 sur cosinus hyperbolique de x, ça c'est le soliton de masse 2, mais je peux également prendre kappa sur cosinus hyperbolique de kappa x, ça c'est un soliton de masse 2 kappa. Donc si je fais ça, et si je cherche encore une fois à résoudre mon problème aux valeurs propres pour l'opérateur grand L, eh bien ce que je vais avoir donc ici, c'est kappa sur cosh kappa x, et ici kappa sur cosh kappa x dans la deuxième équation. Alors là, encore une fois, il suffit de faire des changements de variables ou des changements de fonctions pour se ramener au problème précédent. En l'occurrence, il faut que je pose x' égale kappa x pour ici retrouver un cosinus hyperbolique de x, et puis à ce moment-là, je dois tout multiplier ou tout diviser par kappa, et donc je retrouve le même problème aux valeurs propres, mais avec lambda prime égale lambda sur kappa. Donc, comme je sais que pour le cas kappa égale 1, ma valeur propre unique, c'est i sur 2, eh bien, dans ce cas-là, je sais que ma valeur propre sera toujours unique et elle vaudra i kappa sur 2. Donc, changer la masse du soliton, c'est déplacer la valeur propre, cette fois-ci, sur l'axe imaginaire, la faire passer de i sur 2 à i kappa sur 2. voyez, donc on commence à se repérer sur la manière dont on va gérer les différentes manières de mettre ce solution fondamental. On l'a d'abord mis en 0 avec une masse de 2. Ensuite, on l'a déplacé. Ça ne changeait pas la valeur propre, mais ça changeait le coefficient C. Là, on lui a donné une plus grosse masse. Ça change la valeur propre. Dernière chose que je peux faire, c'est le mettre en mouvement. Si je veux le mettre en mouvement, eh bien, on a vu la dernière fois ce qu'il fallait faire. Il faut simplement multiplier la fonction de départ par la puissance i kx, c'est-à-dire mettre une, superposer, une, enfin, multiplier le soliton par une onde plane. Et à ce moment-là, eh bien, là maintenant vous êtes habitué. De nouveau, je dois regarder le spectre valeur propre de mon ordinateur grand L. Mais cette fois-ci, j'ai une puissance i kx qui vient se mettre ici, et puis une puissance moins i kx qui se met là. C'est mes fonctions u et u étoile. Et à ce moment-là, eh bien, en faisant les bons changements de fonctions phi a et phi b, ce que vous trouvez, c'est que ma valeur propre, qui initialement était en plus 1,5, se déplace, c'est-à-dire qu'elle quitte l'axe imaginaire pour acquérir une partie réelle non nulle. Cette partie réelle est proportionnelle à la vitesse du soliton. Voilà, donc, pour résumer, on a un portrait complet du soliton fondamental. Si je prends une fonction initiale avec un soliton fondamental de position quelconque, de masse quelconque et de vitesse quelconque, eh bien, je repère sa masse et sa vitesse en regardant où est la valeur propre. Hein, la partie réelle me donne la vitesse, la partie imaginaire me donne la masse. Et puis, la position du soliton, qui va varier au cours du temps, elle est encodée dans le coefficient C lambda, mais elle n'est pas encodée dans le spectre. Et le spectre, lui, je vous rappelle, est invariant. Hein. Donc là, on retrouve bien que la vitesse et la masse doivent être invariantes, puisque le spectre, lui, me donne directement la masse et la vitesse. Voilà, et pour tous ces solitons élémentaires, tous les coefficients de réflexion B lambda sont nuls, donc l'inversion des données de diffusion est simple. Alors maintenant, on peut essayer de comprendre la robustesse d'un soliton, ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'un soliton est aussi robuste? Et un des exemples que j'avais pris pour la robustesse d'un soliton, c'était le fait que si je ne préparais pas exactement ma bonne fonction, eh bien, néanmoins, j'obtenais quand même un soliton à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais faire appel à vos souvenirs de mécanique quantique de base. En mécanique quantique de base, je vais peut-être allumer un peu pour pouvoir utiliser le tableau. Voilà. En mécanique quantique de base, si vous vous donnez un puits de potentiel, vous pouvez avoir des étaliers dans ce puits de potentiel. Si je prends un puits de potentiel comme ceci, voilà, donc ça, je suis en physique quantique élémentaire, j'ai un puits de potentiel, et de x comme ça, eh bien, je peux avoir, si je prends ma profondeur de puits et sa largeur convenablement, je peux avoir un étalier dans ce puits de potentiel. Voilà. Maintenant, si je prends un autre puits de potentiel, je n'arrive pas à faire le bon puits de potentiel, mais je prépare un puits de potentiel légèrement différent. Donc un puits de potentiel qui va être, je vais mettre en pointillé, qui va être comme ça, par exemple. Eh bien, ce que je sais, c'est que si j'avais un état propre et si je n'avais pas un deuxième état propre sur le point d'apparaître dans mon premier puits de potentiel, eh bien dans mon deuxième puits de potentiel, celui qui est en pointillé, je vais trouver à peu près la même chose. Mon état propre va se déplacer légèrement, vraisemblablement, mais il va être voisin du premier. Et je sais même que je peux comment trouver la position du deuxième état propre dans le deuxième puits de potentiel par rapport au premier. Il suffit de faire une théorie des perturbations. Ma perturbation, c'est la différence entre la courbe pleine et la courbe pointillée. Eh bien, là, on est dans une situation très équivalente. Si je ne prépare pas exactement le bon état propre, ça veut dire que je vais préparer une fonction u de x et de 0 qui ne sera pas exactement égale à ce que j'aurais souhaité, le us de x et de 0, qui est la fonction onde du soliton. Mais pour mon opérateur grand L, quand je cherche ces étaliers, si je sais que pour us, j'ai un et un seul étalier, qui est la valeur propre i sur 2, eh bien, son spectre, il va être peu modifié si u est proche de us. En particulier, il y aura toujours une seule valeur propre sur cet axe-là. Il ne va pas avoir plein de valeurs propres qui vont apparaître. Je ne vais peut-être pas obtenir exactement la bonne valeur propre, elle va peut-être être légèrement inférieure, même sûrement, puisque je sais que je vais perdre de la masse. Mais néanmoins, au niveau des étaliers, eh bien, je ne vais pas avoir de gros changements. Donc c'est ce que j'écris ici. Si U est assez proche de US, le nombre d'étaliers de L ne sera pas modifié. Donc je continuerai à avoir un seul étalier, donc ça va être le soliton final que j'obtiendrai, Mais bien sûr, je vais quand même payer un prix de ne pas avoir préparé le bon état propre. C'est que les coefficients A lambda et B lambda, enfin surtout les coefficients B lambda ici, qui avaient le bon goût d'être complètement nuls quand je préparais exactement le bon soliton, parce qu'il n'y avait pas de réflexion sur un potentiel en 1 sur cosinus hyperbolique de x, là, à ce moment-là, les coefficients B de lambda seront non nuls. Et ça, c'est ce qui me traduit le fait que je vais devoir évaporer des particules, je vais devoir peupler les états de diffusion. Donc, on retrouve complètement ce qu'on attend, c'est-à-dire que, enfin, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais bien obtenir un soliton à la fin, mais quand même, je vais évaporer un petit peu de masse et je vais peupler des états de diffusion. Donc, la robustesse au niveau de la préparation, on la comprend bien avec cette méthode IST. Voilà. Maintenant, donc, je voudrais terminer par un dernier paragraphe qui est les solitons d'ordre supérieur et en particulier me reposer le problème maintenant de ce qui se passe si j'ai plusieurs solitons et qui subissent des collisions. Alors, commençons par la collision. Prenons un exemple de collision entre trois solitons. Donc, je suppose qu'à l'instant t égale 0, je prépare trois paquets solitoniques. Je les prépare bien, hein, donc c'est à chaque fois des 1 sur cosinus hyperbolique. Ils sont très séparés les uns des autres. Et je me demande ce qui va se passer. Donc vous savez que la collision, normalement, enfin, pas normalement, la collision va produire intermédiairement des fonctions de compliquées. Puis, ultimement, je dois retrouver mes trois solitons à la fin. Si je résous le spectre, enfin, si je résous le problème aux valeurs propres pour mon vecteur grand L, si je calcule son spectre, eh bien, ce que je vais trouver, ça va être un spectre avec trois états liés, trois valeurs propres discrètes, plus le spectre continu. Alors ça, je le dis sans le démontrer, mais là encore, je peux faire appel à l'intuition qu'on a sur l'équation de Schrödinger linéaire, ce qu'on apprend en physique quantique tout au début. Si je vous donne un... Donc, je reviens avec un potentiel V de x. Voilà, si j'ai un puits de potentiel ici, que je prends comme ça, et je sais que ce puits de potentiel a un seul état lié. Voilà. Bien. Je peux imaginer un deuxième puits de potentiel qui, s'il est tout seul, a aussi un seul état lié, que je mets là. Et puis, je peux imaginer un autre puits de potentiel, voilà, comme ça, qui a aussi, lui, un seul état lié s'il est tout seul. Maintenant, si je prends un potentiel qui est la somme de ces trois-là, de celui-ci et de celui-là, et que mes puits de potentiel sont très loin les uns des autres, et si je me demande quel est le spectre de l'Hamiltonien, le mouvement d'une particule dans ce potentiel formé de trois puits, eh bien je sais que si l'effet tunnel pour aller de là à là est négligeable, et si l'effet tunnel pour aller de là à là est négligeable, eh bien mon spectre, ce sera essentiellement les trois états propres qui correspondent à ceux que j'ai dessinés. Voilà, ça doit ressembler à peu près à ça. Pour ne pas avoir ça, il faudrait que je puisse avoir un couplage entre les puits, donc de l'effet tunnel. Mais si je suis capable de mettre ces puits arbitrairement loin l'un de l'autre, ce qui, dans le cas des solitons, revient à se mettre suffisamment loin dans le temps, prendre un temps suffisamment négatif, puis à ce moment-là, je sais que mon spectre, c'est simplement le spectre de celui-ci, donc l'état lié plus évidemment tous les états du continuum, hein, après, le spectre de celui-ci, donc avec tous les états du continuum, le spectre de celui-là, avec tous les états du continuum. Donc mon spectre ici, ce sera ça. Eh bien là, on est exactement dans cette situation, même si ce n'est pas une équation de Schrödinger que je dois résoudre, c'est le problème aux valeurs propres pour l'opérateur grand L, mais ce que j'obtiens, si mes solitons sont bien séparés les uns des autres, c'est un spectre qui va avoir les parties réelles et les parties imaginaires qui correspondent à chacun des solutions individuelles. Donc là, j'ai pris un soliton de faible masse au repos, donc il est au repos, il est sur l'axe imaginaire. Celui-ci a une masse deux fois plus grande et il va vers la gauche. Donc il est ici, hein, sa partie réelle est négative. Et il est une partie imaginaire plus grande que le premier puisqu'il a plus de masse. Et celui-ci a une masse encore plus grande et il va vers la droite, donc il est ici. Et je sais que ce spectre est invariant. Donc je sais que si je vais mettre à l'instant t égale plus l'infini, quand toutes les particules se sont séparées les unes des autres, eh bien, je dois retrouver obligatoirement mes trois solitons, puisque je dois retrouver les trois mêmes valeurs propres. C'est le lambda j de t égale lambda j de 0, ici. Donc, comme ce spectre est invariant, eh bien, je sais que mes solitons doivent ressortir intacts de la collision. Si j'avais un soliton qui se coupait en deux, ça voudrait dire que j'ai plus trois valeurs propres à la fin, mais j'en ai quatre, Or, je sais que j'en ai pas 4 à cause de la variance du spectre. Donc, la robustesse des solutons dans la collision est une conséquence directe de tout ce qu'on a fait ici. Alors maintenant, j'aimerais décrire un autre état qui est directement inspiré de ce qu'on vient de voir, qui est un multisoliton, ou qu'on peut appeler soliton composite. Donc, je peux de nouveau éteindre ça. Donc, ce qu'on a vu ensemble jusqu'ici, c'est donc le soliton fondamental, le 1 sur cosinus hyperbolique de x, amplitude de 1, largeur de 1, ou alors ces solitons que je déduis par homothétie, si vous voulez, kappa sur cosinus hyperbolique de kappa x, amplitude kappa, largeur 1 sur kappa. Donc ceux-là, on les a bien caractérisés, une et une seule valeur propre, et on sait où la mettre dans le plan complexe, en plus de l'axe réel, bien sûr. Maintenant, posons-nous un problème différent. Supposons que je garde une largeur de 1, donc cosinus hyperbolique de x, mais je vais changer l'amplitude. Donc je vais mettre un a qui peut être arbitrairement petit ou arbitrairement grand. Que va-t-il se passer? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je prends a plus petit que 1, ben, ça veut dire que j'ai choisi une largeur de 1, mais je n'ai pas mis assez de masse. Et si au contraire, si je prends a plus grand que 1, ça veut dire que pour ma largeur, eh ben, j'ai mis trop de masse dans mon soliton. Alors, c'est un problème intéressant, problème qui a été résolu il y a bien longtemps par Satsuma et Yajima. Ça passe par des fonctions hypergéométriques, mais on peut déterminer complètement ce spectre. Et voilà ce que ça donne. Ici, vous avez donc l'axe des valeurs de A. Je me limite à des A positifs, puisque finalement le signe de A a peu d'importance ici, donc on peut se limiter à A positif. Donc, A égale 0 ici, A égale 1. Notre soliton fondamental, il est là. Et vous voyez, j'ai découpé cet axe réel ici en segments de longueur 1, centré sur A égale 1, centré sur A égale 2, centré sur A égale 3. Bien. Alors, si je considère d'abord le segment centré sur A égale 1, donc centré sur le soliton qu'on connaît bien, vous allez voir pourquoi je regarde ce qui se passe entre 1,5 et 3,5. Eh bien, sur tout ce segment-là, ce qu'on trouve, quand on regarde le spectre de l'opérateur grand L, on trouve une valeur propre et une seule en dehors de l'axe réel. Ce qui veut dire donc que j'ai un soliton et un seul. Cette valeur propre, eh bien, elle est facile à calculer et vaut i fois a moins 1,5 ici. Donc si vous prenez a égale 1, vous retrouvez la valeur propre i sur 2 qu'on a déjà trouvée, mais si a n'est pas égal à 1, mais plus grand que 1,5 et plus petit que 3,5, eh bien, vous pouvez la calculer directement à partir de cette formule. Ça veut dire ça, que si vous préparez donc ce soliton grand A sur cosinus hyperbolique de x avec un A différent de 1, eh bien, vous allez avoir de l'évaporation et au bout du compte, vous obtiendrez un autre soliton de masse plus petite qu'au départ, mais vous obtiendrez bien un soliton et un soliton seulement. Maintenant, que se passe-t-il dans la zone rouge si A est plus petit que 1,5? Eh bien, dans la zone rouge, la diagonalisation de cet opérateur grand L ne donne aucune valeur propre en dehors de l'axe réel. Ce qui veut dire qu'il n'y a que des états de diffusion. Ça veut dire que si vous mettez un A plus petit qu'un demi, eh bien vous n'avez pas mis assez de masse dans votre matière, dans votre paquet d'ondes de départ, et compte tenu de sa compacité, du fait qu'il y a quand même pas mal d'énergie de confinement, eh bien il va s'étaler et toutes les particules vont partir à l'infini. Il n'y aura rien qui va rester devant vous à la fin, autant asymptotiquement long. Il n'y avait pas assez de matière au départ. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver que quand A tend vers 1,5 ici, ma valeur propre ici tend bien vers 0, donc la valeur propre qui était initialement en I sur 2 quand je prenais A égale 1 se rapproche de plus en plus de l'axe réel, et puis ensuite elle fond ici dans l'axe réel, et puis donc il n'y a plus de soliton. Si vous prenez un A notablement trop grand, et notablement trop grand ça veut dire supérieur à 3,5, mais disons inférieur à 5,5, donc A centré autour de 2, à ce moment-là vous voyez apparaître deux valeurs propres dans le spectre. Vous retrouvez la première, qui est donc ce A moins 1,5, et vous voyez une deuxième valeur propre, qui est A moins 3,5. Ça veut donc dire que vous êtes en face d'un problème à deux solitons. Et ces deux solitons, ben, je vais vous en dire plus dans un instant, mais ces deux solitons qui sont superposés l'un sur l'autre. Leur vitesse vaut 0, puisqu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas de partie réelle à la valeur propre, c'est une valeur propre imaginaire pure, donc ils sont de vitesse nulle, ils sont de masses différentes, et on va voir, ils sont superposés l'un sur l'autre, pour donner un objet que j'appelle un bisoliton, enfin, qu'on appelle un bisoliton, et qu'on peut fabriquer expérimentalement. Et puis ça continue comme ça. Ça continue comme ça par segment de 1. Si vous prenez un A qui est compris, donc centré sur 3, donc compris entre 5,5 et 7,5, eh bien vous trouvez trois valeurs propres discrètes qui vont être A-1,5, A-3,5, A-5,5, fois petit i. C'est trois valeurs propres sur l'axe imaginaire pur. C'est trois solitons de masses différentes superposées les uns sur les autres, etc. Alors cette chose-là, donc, je peux le redire, hein, donc, pour A égale 1, on a le soliton fondamental. Pour toutes les valeurs A entières, donc A égale 1, 2, 3, etc., tous les coefficients de réflexion B lambda s'annulent, ici, donc si vous prenez par exemple 2 sur cos x, 3 sur cos x, tous les coefficients B lambda que j'avais écrit là-bas s'annulent, les coefficients de réflexion, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de spectre discret excité, il n'y a pas de spectre continu excité, il n'y a que du spectre discret qui rentre en jeu, donc il n'y a pas d'évaporation, si vous voulez. Si vous préparez 2 sur cos x ou 3 sur cos x, eh bien, vous garderez toutes vos particules là où vous les avez mises initialement. L'évolution est uniquement périodique. Et si je prends le cas A égale 2, par exemple, ce bisoliton, eh bien, vous avez ces deux valeurs propres que je disais, i sur 2 et 3i sur 2. Alors, vous pouvez tout calculer. Je vous ai dit, ces deux solitons qui sont l'un sur l'autre, mais tout ça, ça a une dynamique donc, qui va être régie par ces valeurs propres lambda 1 et lambda 2. Et en particulier, la densité centrale, dans ce cas-là, elle oscille. Elle oscille de cette manière-là. Donc, c'est la densité en 0, 8 sur 5 plus 3 cosinus oméga bt, où oméga b en unité réduite vaut 8. Et je vous ai donné la valeur d'oméga b avec des unités physiques ici, les nombres de particules et puis les masses et les forces d'interaction. Alors ça a été vu expérimentalement, ça a été vu avec des fibres optiques il y a bien longtemps, mais ça a également été vu avec des atomes froids dans des manips récentes. Je ne voulais pas le montrer tout de suite. Dans les manips récentes, ça a été vu par le groupe de Strathclyde, de Stefan Kuhr, et puis également dans le groupe de Houston, le groupe de Randy Hewlett, il y a quelques années. Là, je vais décrire la manip faite à Houston. Le point de départ, ça a été de fabriquer un soliton de base, le monosoliton, maintenant on peut l'appeler, s'il y a des bisolitons, des trisolitons, le monosoliton, le 1 sur cos hyperbolique de x, avec un nombre d'atomes assez grand, hein, 50 000. Les atomes sont des atomes de lithium. Je vous avais expliqué la dernière fois que c'est un atome très commode parce qu'on peut changer la force des interactions très finement grâce à des résonances de diffusion. Et donc, on part de ce système-là, qui est donc un système qui est bien quasi unidimensionnel puisqu'on est dans un piège très fortement anisotrope, fréquence faible selon l'axe X et puis beaucoup plus élevé selon les axes transverses. Et la manière dont on va s'y prendre pour passer de 1 sur cosinus hyperbolique x à 2 sur cosinus hyperbolique x pour exciter le bisoliton, eh bien en fait, ça va être de changer la longueur de diffusion. On peut se convaincre que si je multiplie la longueur de diffusion par a carré ou a égale 2, eh bien, moyennant des changements de fonctions propres, enfin de fonctions d'onde décrivant le condensat, eh bien, on peut se ramener au cas du bisoliton. Donc là, c'est une petite gymnastique avec des changements de variables et des changements de fonctions. Je vous laisse le faire. Mais disons que un changement de longueur de diffusion revient à faire cette multiplication de A par un facteur 2. Et voilà ce qu'ils obtiennent. Donc ici, c'est l'instant initial, T égale 0. Donc vous avez le gaz donc, qui est dans ce piège très allongé. Hein, l'axe X, pour moi, eux, ils l'appellent Z, mais l'axe X, c'est ça. Voilà. Donc au départ, vous avez cette forme de soliton fondamental, 1 sur cosinus hyperbolique de X, mais avec une masse trop grande. Donc ce que vous voyez, c'est que l'objet commence à se contracter, puisqu'il y a plus d'énergie d'interaction qui tend à ramener les particules les unes vers les autres que d'énergie cinétique. Et puis ensuite, ça se contracte, puis ça se réétale, etc. Et l'oscillation de la densité, ben ça c'est la fonction que j'avais donnée à la diapositive précédente, avec la fréquence oméga b qui valait 8. Et vous voyez que les données expérimentales sont en très bon accord avec ce mouvement-là. Ce que le groupe de Houston a fait également, c'est le trisoliton. Donc là, il faut multiplier la longueur de diffusion par a carré, donc par 9. En fait, ils n'ont pas vraiment fait exactement ça. C'était proche. Il faudrait obtenir A égale 3, et eux, ils ont fait A égale 2,6. C'est ça qui a donné les résultats les meilleurs, pour une raison que je ne connais pas. Mais donc, ce qu'ils ont préparé comme objet, c'est donc un trisoliton avec ses trois valeurs propres, i sur 2, 3 i sur 2, 5 i sur 2. Voilà l'état de départ. Donc, c'est toujours, vous avez toujours ici l'axe x qui est là, et puis un film en temps. Donc, au départ, vous avez cet état qui est 3 sur cosine hyperbolique de x, ou 2,6 sur cosine hyperbolique de x. Il se contracte, ici. Puis ensuite, il se redilate, mais il se redilate même de manière spectaculaire, parce que vous voyez, ici, à cet instant-ci, ça forme carrément deux lobes, loin les uns des autres, mais les phases de la fonction d'onde est telle que ces deux lobes vont venir se remettre ensemble, et etc. Et on obtient comme ça un mouvement périodique. Alors c'est un mouvement qui peut vous rappeler les modes, les structures respirantes que j'avais la dernière fois, mais néanmoins, il y a une différence. Les structures respirantes à la Kuznetsov et, ou les Arkhmediev que je montrais la dernière fois, elles se fabriquaient sur un fond qui était non nul, c'est-à-dire que ma densité asymptotique valait 1, et c'est des structures qui réapparaissaient et disparaissaient sur une densité uniforme de 1. Là, la densité asymptotique vaut 0, hein, c'est un objet qui est localisé entièrement dans l'espace au voisinage de x égale 0, et qui respire de manière qui est hautement non triviale. Voilà. Alors, cet objet, qu'est-ce que je peux en dire ? Ben, une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait que ce n'est pas un système lié. C'est-à-dire que ce multisoliton, dont on a vu qu'il était composé de solitons élémentaires, 1,5, 3,5, 5,5, pour les valeurs propres, eh bien, il n'a pas d'énergie de liaison. Et pour vous en convaincre, eh bien, on va la calculer, cette énergie. Donc, je vous rappelle ce qu'on connaît sur le soliton fondamental. Si je prends le soliton fondamental kappa sur cosine hyperbolique de kappa x, il a une masse de kappa, et il a une énergie, je vous disais tout à l'heure, l'énergie est en moins n cube, donc dans ces unités-là, l'énergie elle est en moins kappa cube, et avec un préfacteur qui vaut 2 tiers. Bon, ça c'est le soliton fondamental. Maintenant, si vous prenez le multisoliton n sur cosine hyperbolique de x, c'est-à-dire que vous avez pris grand A égale n dans les formules précédentes, vous pouvez calculer la masse, c'est l'intégrale de u carré, ça va valoir 2n2, et vous pouvez calculer son énergie. Alors, c'est moins 2 tiers de n carré fois 2n2 moins 1. Bien. Alors, comparons la masse que vous trouvez ici, je peux l'entourer, comparons cette masse à la masse des objets élémentaires. Donc, le multisoliton, je vous le dis, il est composé de des valeurs propres 1,5, 3,5, 5,5, etc., donc des kappas qui valent 1, 3, 5, 7. C'est-à-dire que la masse que je vais obtenir en superposant tout ça, ça va être la somme des premiers nombres impairs, les 2j-1, hein, où je somme de j égale 1 à n. Ça, c'est un exercice, je suis sûr que vous l'avez tous fait à un moment ou à un autre de vos études. La somme des n premiers nombres impairs, ça vaut n carré. Ben là, je trouve que la masse de l'objet du multisoliton que je fabrique, 2n2, c'est exactement la somme au facteur de près des sommes des premiers nombres impairs de j-1. Donc ce que je retrouve là, c'est que quand je superpose tous ces solitons kappa égale 1, 3, etc., eh bien, j'obtiens bien la masse de mon objet multisoliton. Je n'ai pas d'évaporation, toute la masse est conservée. Mais le point où je veux en venir, c'est quand je vous dis que ce n'est pas un système lié, c'est qu'on a cette même relation pour les énergies. Si maintenant je me place du point de vue des énergies, l'énergie de chacun des solitons élémentaires, donc je vous dis c'est kappa cube, donc ça va être 2j-1 au cube, fois le facteur moins 2 tiers que je vais mettre ici. Et si vous prenez la somme des cubes des n premiers nombres entiers, alors celle-là je ne suis pas sûr que vous l'ayez vue dans vos études, en tout cas moi je ne l'avais pas vue, eh bien cette somme des cubes des premiers nombres entiers, ça vaut simplement n2 fois 2n2-1. Et ça, eh bien c'est exactement l'énergie, au facteur moins 1 tiers près, du multisoliton. Donc le multisoliton qu'on est en train de fabriquer, c'est un objet où tous les solitons acceptent de rester les uns sur les autres, ils oscillent pour faire les belles structures que vous avez vues sur les photos, mais il n'y a rien pour les lier, c'est-à-dire que j'aurai la même énergie en les séparant les uns des autres. Et il y a donc une série d'articles récents, en particulier par Maxime Olchani et ses collaborateurs, pour se dire, ben, est-ce qu'il y a moyen de casser ce multisoliton ? Et pour le casser, en fait, il suffit de mettre quelque chose dans l'équation qui rend l'équation non intégrable. Dès que vous allez mettre un petit peu de choses non intégrables dans l'équation, eh bien, ce multisoliton, qui peut être vu donc comme une particule composite, va pouvoir se décomposer en ces fragments qui sont les solitons élémentaires. Donc on peut imaginer, par exemple, de prendre un multisoliton qui va se propager dans l'espace libre sans problème, mais si vous le faites arriver sur une petite barrière, eh bien vous pouvez avoir le soliton 1 qui va être transmis, par exemple, et le soliton 3 et le soliton 5, si je prends le multisoliton 1, 3, 5, le 3 et le 5 vont être réfléchis. Donc c'est un moyen de révéler finalement la composition d'un objet composite non lié, simplement en brisant l'intégrabilité de l'équation. Donc la manip n'a pas encore été faite, mais ce serait certainement une très jolie expérience. J'en arrive à la toute fin, et je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit la dernière fois, et le replacer dans le cadre donc, de cette méthode IST. La semaine dernière, je vous ai dit que quand on prenait l'équation de Schrödinger non linéaire et qu'on allait vers des structures plus complexes, c'est-à-dire qu'on prenait des conditions initiales bruitées, eh bien on obtenait des évolutions qui étaient elles-mêmes complexes. Donc je vous en avais donné trois exemples. Ma fonction d'onde initiale, je l'avais écrite comme 1 plus f de x avec un 1 sur racine de q pour normer ma fonction. F de x était une fonction qui contenait du bruit. Et ce que je vous avais dit, c'est que si le bruit que je mets est faible, eh bien, voilà ce qui se passe. Donc, le temps sur ces figures va de bas vers le haut, ici, comme ça. Donc, on part à bruit faible d'une fonction qui est ici, qui est pratiquement uniforme. Et puis, je vous avais expliqué qu'il y avait cette instabilité modulationnelle qui faisait se développer donc, des petits paquets d'atomes. Et ces petits paquets qu'on voit ici, que je vous avais dit que ça ressemblait soit à des solitons, soit à des structures respirantes. De temps en temps, elles se combinent avec leurs voisines et puis elles se resséparent. Et puis quand on met plus d'énergie, eh bien on obtient ces choses-là, et puis avec encore plus d'énergie, on obtient ça, avec par exemple ici un soliton qui se propage, enfin ce qu'on pense être un soliton ou un autre comme ça, ces solitons se croisant. Eh bien, les mêmes auteurs, hein, ceux que j'avais cités la dernière fois ici, eh bien, ont calculé le spectre de l'opérateur grand L associé à ces figures-là, et ils ont obtenu ces spectres-là. Donc c'est très intéressant de les regarder. Vous voyez, pour la situation où vous mettez très peu de bruit, où finalement le système démarre sur l'instabilité modulationnelle, bien vous voyez que le spectre est composé essentiellement de l'axe réel, bien sûr, et puis de valeurs propres qui sont deux parties réelles nulles, deux parties imaginaires non nulles, et ces valeurs propres sont situées toutes entre l'axe réel 0 et puis la valeur propre i. Voilà, avec une répartition bien, bien particulière qui est celle que vous voyez sur ce graphe. Et puis quand vous allez vers des situations plus bruitées, ben vous obtenez des choses comme ça, où là vous avez beaucoup de valeurs propres qui apparaissent au voisinage de l'axe réel, vous avez des valeurs propres qui n'ont discrètes ici, mais dont la partie réelle n'est pas nulle, donc ça, dans le langage des solitons, ça va correspondre à des solitons de vitesse non nulle, ce qui rappelle évidemment ce qu'on voit ici. Mais donc, tout un travail maintenant à faire, qui est en train d'être fait, c'est d'essayer de partant de ces spectres-là, essayer d'interpréter ce qu'on voit. Et je voudrais citer en particulier ici un travail qui a été fait par certains qui sont présents dans cette salle, du groupe de Lille, en collaboration avec, pour le premier article que je cite ici, enfin ces articles je les citais déjà la dernière fois, hein. C'est le premier est fait avec des physiciens russes, et le second est fait avec des physiciens anglais et des physiciens américains. C'est un travail qui consiste à dire, ben, est-ce que je peux prendre des fonctions u de x relativement simples qui ont le même spectre que celui-ci et qui reproduisent ce type de résultat-ci ou ce type de résultat-là. Alors, les deux articles que je cite se concentrent sur la partie faible bruit, la partie où c'est l'instabilité modulationnelle qui crée les structures. Et ces chercheurs ont pu faire, c'est donc montrer que en se restreignant à une fonction purement solitonique, c'est-à-dire en ne prenant pas de spectre continu compliqué, simplement en mettant des solitons avec les poids qui correspondent aux valeurs propres qu'on trouve là, eh bien on peut reproduire un très grand nombre de caractéristiques du spectre qu'on a là, de la distribution en intensité. En particulier, on peut montrer que une caractéristique essentielle de la distribution d'intensité qu'on avait dans ce cas-là, c'était que c'était une loi exponentielle pour l'intensité. Donc on avait que la moyenne de l'intensité au carré, c'était deux fois le carré de la valeur moyenne. Et bien ça, c'est reproduit complètement si on prend, se limite simplement à ça en disant j'ai ici des solitons avec des poids qui sont donnés par ces valeurs propres. Voilà, donc c'est un travail en cours et c'est évidemment très intéressant d'essayer de dire des choses les plus simples possibles sur ces spectres de valeurs propres. Donc je conclue Je rappelle la phrase de Perard et d'Auxois sur le fait que c'est une méthode qui constitue l'apogée de la théorie des solitons. J'espère que vous partagez cette opinion maintenant. Donc, le point essentiel, hein, c'est que c'est une méthode qui vous fournit, comme je disais, un portrait spectral de la fonction de départ, et ce portrait spectral, il est invariant dans le temps, si mon équation est intégrable. Si je prends des structures relativement simples, j'ai un petit nombre de valeurs propres en dehors de l'axe réel, à chaque valeur propre, je sais associer un soliton élémentaire, je sais que ce soliton va survivre aux collisions, parce que le spectre est invariant dans le temps, et je sais aussi que je peux, avec ça, générer des multisolitons, qui sont des superpositions stables de solitons élémentaires. Et puis, ce que je disais tout à la fin, c'est que si on prend des structures qui sont plus complexes, à ce moment-là, le portrait spectral est lui-même compliqué, mais il y a eu des progrès récents pour analyser donc ce qu'on peut appeler la turbulence intégrale, c'est-à-dire le comportement un petit peu compliqué, chaotique de ce qu'on a sous les yeux, en termes de densité de probabilité pour ces valeurs propres. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette méthode IST. Vous voyez que c'est une méthode qui est vraiment très puissante. Et puis, je termine ici avec ce que je voulais vous dire sur les solitons noirs, sur les solitons brillants, pardon. Et à partir de la semaine prochaine, donc, on va attaquer une autre classe de solitons qui seront les solitons noirs ou gris. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.